Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Salut à tous.
Comment ça va, Sidonie ?
Bienvenue dans la curiosité. Formidable.
Pleine forme.
Je suis heureuse.
Bon, salut à vous les curieux et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les soirs. C'est quoi les chiffres ?
C'est plus 15% sur l'année. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que nous, on a un plaisir fou à travailler, à préparer une belle émission pour vous avec toute l'équipe qui est formidable et nos invités qui sont passionnants. Et si en plus vous prenez du plaisir à nous écouter, franchement, c'est le bonheur et ça fait du bien.
Allez, le programme de ce soir, Sidonie.
L'histoire des enfants cachés d'Henri IV, qui a eu beaucoup de femmes légitimes, beaucoup de maîtresses et donc de nombreux bâtards, pour reprendre la vilaine expression que l'on utilisait à l'époque.
Et puis on retrouvera Clémentine Bacry et Adrien Normier, notre couple d'aventuriers. Ils se préparent à partir à bord de leur avion ULM pour offrir, vous savez, leur service à des chercheurs dans le monde entier. C'est l'opération des ailes pour la science dont nous sommes partenaires. Mais tout de suite, un hymne dans l'histoire de la Marseillaise. Chantée par 70 000 supporters français et anglais réunis hier soir à Wembley. La Marseillaise entonnée par les parlementaires réunis lundi à Versailles. On vous raconte l'histoire de notre hymne national avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Merci d'être venu ce soir et d'avoir répondu aussi vite, puisque c'est un sujet qu'on a décidé de faire hier et vous êtes toujours là pour nous et c'est vraiment sympa. Vous faites vraiment partie de la famille de la curiosité. La Marseillaise, tiens, est-ce qu'elle s'est toujours appelée la Marseillaise ?
Non. Elle s'est appelée champ de guerre pour l'armée du Rhin,
ouais.
Et elle s'est appelée aussi champ de marche des volontaires de l'armée du Rhin. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas duré, le nom, je veux dire.
Oui, le nom n'a pas duré, on y reviendra. Je le disais tout à l'heure dans le passage d'antenne avec Marc-Olivier Fogiel, Rouget de Lille écrit la Marseillaise en 1792. C'est quoi ? C'est une commande ? À quoi est-il destiné, ce chant ?
Il l'écrit dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. Et en fait, il l'écrit moins d'une semaine après la déclaration de guerre que l'Autriche fait à la France. Mmh. Donc, c'est une commande de circonstance. Et la commande, elle émane du maire de Strasbourg, le premier magistrat de la ville. Il s'appelle Philippe Frédéric de Dietrich. Et il se trouve que c'est l'ami d'un certain Rouget de Lille, qui est un officier du génie, qui est lui...
Ah, c'est un militaire, Rouget de Lille.
Oui, ouais. Il est officier. Mmh. Et il est en garnison à Strasbourg. Donc, il le rencontre, et il lui propose, il lui demande, vous avez raison, Thomas, il dit, voilà, ce serait bien qu'on ait une chanson pour célébrer, si j'ose dire, et donner du cœur à l'ouvrage, à nos soldats. Je rappelle tout de même, je fais vite, mais qu'en 1792, c'est la France contre toute l'Europe. C'est la France contre toutes les monarchies. Nous sommes la Somme République, nous sommes attaqués de toutes parts. Et, comme je viens de vous le dire, l'Autriche vient se rajouter à la longue kyrielle des royaumes qui veulent notre peau, pour parler un peu familièrement.
Et on n'a pas encore de chant patriotique.
Et on n'a pas encore de chant patriotique. Et d'ailleurs, la Marseillaise ne devient pas, Sidonie, tout de suite, le chant national.
Oui.
Qui l'a chanté en public pour la première fois, cette Marseillaise ?
Probablement de Dietrich, le maire de Strasbourg. Bien évidemment... imaginez que Rouget de Lille l'ait chanté à plusieurs reprises, mais la version officielle dit qu'il l'aurait chanté sur la place Breuil, qui est juste la place à Strasbourg, qui est juste devant la mairie, l'hôtel de ville.
Comment c'est devenu la Marseillaise ? Ça s'appelait chant de guerre pour l'armée du Rhin. Pourquoi c'est Marseille d'un seul coup ?
C'est Marseille parce que il se trouve qu'on avait un officier qui se trouvait, un certain Meurier, qui venait de Montpellier et qui était là pour organiser ce qu'on appelait les soldats du Midi, c'est-à-dire les soldats de Montpellier et de Marseille, pour les unir. Ce sont des fédérés, c'est-à-dire des gens qui sont des volontaires, la garde nationale, pour défendre la patrie, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Et ce fameux Meurier, le lendemain d'un dîner qu'on donne en son honneur, se met à entonner la chanson de Rouget de Lille. Et là, le bataillon des Marseillais la trouve formidable, la chanson.
Mmh.
Et ils vont, pendant toute leur marche, la chanter, la chanter, la chanter. Quand ils vont arriver aux Tuileries, à Paris, ils vont faire une entrée triomphale, ils vont rentrer en chantant la Marseillaise. Enfin, en chantant cette chanson.
Oui.
Pour les Parisiens, C'est un peu compliqué, chant de guerre pour l'armée du Rhin, ça veut rien dire. C'est les Marseillais, ils ont appelé ça la Marseillaise.
Et voilà.
Et le nom est resté.
Et le nom est resté. On va continuer de vous raconter cette histoire. Tiens, saviez-vous que l'hymne français aurait pu s'appeler le réveil du peuple? Restez avec nous dans la curiosité.
Allons, enfants de la patrie.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Fort d'unité nationale, lundi, les parlementaires qui sont réunis à Versailles et qui entonnent la Marseillaise d'une seule voix ce soir sur RTL. On vous raconte son histoire à cette Marseillaise, notre hymne national dont nous sommes fiers, un symbole des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes avec Pierre Baron, notre consultant en histoire, et aujourd'hui nous pourrions être plutôt en train de chanter ce chant patriotique.
Le crime aboli les bannières du carnage et de la terreur.
Pierre Baron, le réveil du peuple, qui l'a écrit ?
Le réveil du peuple, c'est Jean-Michel Souriguière de Saint-Marc. Pour le texte, qui est un homme de lettres et un dramaturge français. Pour la musique, c'est Pierre Gaveau. Attention, ça ne s'entend pas, mais c'est un Gaveau avec un X. Ça n'a rien à voir avec la salle Gaveau.
D'accord.
Okay. Qui, lui, était un chanteur et un compositeur français, qui, il faut le dire, avait été plutôt actif pendant la période révolutionnaire. Mais alors lui, comme aurait dit Dutronc, il savait retourner sa veste.
Donc,
d'accord. Et oui, parce qu'en 91, il nous fait une chanson qui est interdite. Par anti-patriotisme. Et alors, figurez-vous qu'il a dû être touché par la grâce, parce que l'année suivante, il fait un magnifique opéra sur l'être suprême pour plaire à Robespierre. Donc je me dis que le garçon avait des ressources.
Alors, pour bien comprendre, le réveil du peuple a concurrencé la Marseillaise pendant quelques mois.
Oh oui, pour plusieurs mois.
Il a la bourre un peu, non?
Et alors, ce qui est très amusant,
ouais,
c'est que ça s'est fait un petit peu le terrain de jeu, si j'ose dire, ou d'affrontement, c'était les théâtres. Théâtre de Paris, surtout.
Ouais.
Parce que vous aviez un certain nombre de comédiens, de chanteurs qui entonnaient soit la Marseillaise, soit le réveil du peuple. Attention, le réveil du peuple, c'est un chant qui est quand même beaucoup plus... comment vous dire ? C'est un chant beaucoup plus critique sur la Révolution. Mmh. C'est un chant beaucoup plus en retrait. C'est un chant qui est pas loin de... Enfin, il est anti-jacobin. Donc, c'est pas exactement les valeurs purement révolutionnaires.
Et finalement, la Marseillaise devient l'hymne national. Est-ce qu'on dit ça ? Est-ce qu'on parle d'hymne à l'époque ? Pas tout à fait,
pas
c'est
tout
ça ?
De suite, oui. Thomas. Le comité de salut public va décréter... on l'appelle un chant national.
C'est ça, le chant national.
Le 14 juillet 1795. C'est la convention qui vote ça, à l'initiative du comité de salut public. Mais ce n'est pas encore l'hymne. L'hymne, ça veut dire qu'il y a un côté officiel, comme aujourd'hui pour nous, puisque la Marseillaise est inscrite dans la Constitution.
Ouais,
au même
ça.
Titre que notre langue, etc.
Ouais, voilà. Ça a été confirmé dans la Constitution de 46 et dans celle de 58. Que fait Napoléon quand il arrive au pouvoir ?
Eh bien, et c'est assez curieux pour un militaire de ce vol, il va l'abandonner.
Ouais.
Il va abandonner la Marseillaise et il va lui substituer un autre chant révolutionnaire qui est très beau aussi, qui est le chant du départ.
On l'a, le chant du départ.
La victoire.
Ça, c'est intéressant. Autant le réveil du peuple dont on parlait un instant, on l'a oublié. Autant le chant du départ, c'est resté, pardon, c'est un anachronisme, un hit, d'une
oui.
certaine façon. Pourquoi ? Parce qu'on a continué de le chanter, il est resté symbolique pendant très longtemps.
Oui, d'abord parce que l'air était beaucoup plus entraînant, il faut le dire.
Ouais.
Ensuite, il était beaucoup plus dans la ligne révolutionnaire, puisque le comité de salut public avait demandé qu'on le joue et qu'on le chante le 17 juillet 1794 pour célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille. Le 14 juillet, pardon, bien sûr.
Ouais.
Donc il était tout à fait dans l'air du temps. Vous disiez tout à l'heure, on aurait pu chanter au chant du départ, parce que ça s'est joué à peu de choses, finalement.
Ouais. Et on l'a chanté jusque la Première Guerre mondiale, où lors du départ des poilus, ils chantent ça, c'est ça ?
Oui, puis il y a une expression, la fleur au fusil, qu'on trouve dans les paroles du chant du départ, c'est une expression très connue, Eh bien, quand on parlait de la fleur au fusil, partir à la fleur au fusil pour nos grands-parents et nos arrière-grands-parents en 14, l'expression, elle vient de cette époque-là. C'est un chant révolutionnaire qui parle de la fleur au fusil.
Pierre Baron, la Marseillaise n'est plus l'hymne national à partir de 1904.
1804.
Mais elle réapparaît en 1830. Dans quel contexte politique ?
Elle réapparaît pendant une autre révolution, c'est celle des Trois Glorieuses, avec Louis-Philippe. Louis-Philippe au pouvoir, c'est ce qu'on a appelé le roi citoyen. Donc il avait besoin de renouer avec ce que Louis XVI avait complètement raté, c'est-à-dire une espèce de monarchie simple, de proximité, voire constitutionnelle.
C'est sa caution révolutionnaire,
oui,
en quelque sorte.
En remettant la Marseillaise, il renouait avec la Révolution tout en se plaçant tout de même dans son rôle de souverain.
Qui était Claude-Joseph Rouget de Lisle ? A-t-il connu un destin aussi glorieux que sa Marseillaise ? Réponse dans un instant, dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La Marseillaise telle qu'elle a été orchestrée par Hector Berlioz en 1830 avec notre consultant en histoire Pierre Baron, on vous raconte l'histoire de cet hymne qui vient scander les moments forts et dramatiques de notre histoire. On l'a encore vu cette semaine, la Marseillaise, Pierre Baron, écrite et composée évidemment par Rouget dit de Lisle. On va raconter un peu son histoire. De quelle région, de quel milieu social est-il originaire ?
Rouget de Lisle, c'est un homme plutôt... à tendance, je dirais, c'est plutôt un homme du Nord,
ouais.
Nord-Est. Il s'est frotté à la littérature, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. C'est-à-dire, indépendamment de sa carrière militaire, ce qui l'intéressait, c'était d'écrire d'autres chansons, pas seulement la Marseillaise. Et il s'est un petit peu frotté aux préfaces, mais sans beaucoup plus de succès. Il a publié un livre de chansons. Ouais.
Aux préfaces, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire de pouvoir écrire des préfaces de livres, Sidonie, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné non plus. Il a pas eu un grand succès. Et ses chansons, à part celles que l'on connaît, la nôtre, mais par contre, c'est un homme de conviction, Rouget de Lisle, contrairement à d'autres.
Parce qu'il naît en 1760, je crois, donc il a une petite trentaine, au moment de la Révolution, il est jeune. Oui. Il est tout de suite révolutionnaire, il s'engage...
Oui, il est révolutionnaire, mais c'est un révolutionnaire modéré, donc c'est ce que je disais, ça va lui valoir quelques ennuis, parce qu'il proteste au moment où on va emprisonner le roi. Ça a failli lui coûter cher, il aurait très bien pu se faire guillotiner dans les 12 mois, qui y suivent. On ne le fait pas. Peut-être parce que déjà le succès de ce chant le protège, ou en tout cas le couvre de gloire, mais c'est pas quelqu'un qui renonce à ses idées. Alors, une dernière chose, dans un régime aussi difficile, aussi éphémère, violent que l'a été la Révolution, Rouget de Lisle meurt à 76 ans, ce qui prouve que tout de même, les convictions, ça peut aussi garder un homme.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient, Rouget de Lisle, après la Révolution ?
Il va... probablement, parce qu'on a beaucoup gardé aux archives nationales, on a beaucoup de correspondances de sa part, mais ce sont des correspondances d'annotation. En fait, il va tout simplement beaucoup s'occuper de ses biens. Tout simplement.
Ah oui.
Sans plus. Et encore une fois, sa musique, comme beaucoup d'œuvres, va lui échapper. Hein, voilà. C'est-à-dire, souvent une chanson, si belle soit-elle, elle échappe beaucoup à son compositeur.
Mais il continue de composer après la Révolution ?
Oui, il continue à faire des chansons, encore une fois, sans grand succès. Il les publie. Elles sont publiées, les partitions sont publiées, on les a. Ouais. Mais on n'en a gardé aucune trace, c'est-à-dire qu'elles n'ont eu aucun succès.
Mais il ne va pas devenir riche grâce à la Marseillaise.
Ouais. Non. C'est pas la Marseillaise qui l'enrichira.
Et c'est même plutôt l'inverse. Il finit sa vie dans la pauvreté, c'est ça ?
Il finit sa vie de façon... Bon, il s'occupe un peu de ses affaires, c'est vrai. Mais je dirais qu'il vit très frugalement. Voilà. Pour quelqu'un. De toute façon, la Révolution ne lui aurait pas payé de droit d'auteur par définition et par principe.
Oui, ça c'est sûr. On disait tout à l'heure que Louis-Philippe avait remis la Marseillaise au goût du jour. Il a également aidé Rouget de Lisle quand il est arrivé au pouvoir.
C'était aussi une façon pour lui de renouer. Un peu comme on a entendu tout à l'heure Berlioz. Berlioz, c'est un hommage qu'on entend tout à l'heure. Cette façon de réorchestrer. La Marseillaise, c'est une façon de célébrer aussi l'œuvre de Rouget de Lisle.
D'accord. Donc, on est à la même époque, c'est 1830.
Oui, exactement.
Les Trois Glorieuses, etc.
Voilà, vous êtes dans un contemporain où, de nouveau, le choc de la Révolution, on le sent encore en 1830. coupure, la fracture de la société française au niveau de la foi, de la religion, des mœurs entre les républicains, la révolution et les autres, elle existe toujours chez les artistes et au pouvoir. Donc attention, 40 ans ou 50 ans après, la France est toujours extraordinairement divisée. Revenir à Rouget de Lille, remettre la Marseillaise, chant guerrier s'il en est, c'est un acte politique fort pour Louis-Philippe.
Et il aidera effectivement Rouget de Lille en lui allouant une pension viagère. La Marseillaise, c'est aussi un hymne symbolique. On vous raconte comment Tchaïkovski, Gainsbourg, mais aussi, c'est plus surprenant, des clubs de football japonais et anglais chantent la Marseillaise. Restez avec nous dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir sur RTL, on vous raconte l'histoire de la Marseillaise, notre hymne national avec Pierre Baron, le consultant en histoire de la curiosité. Pierre Baron, la Marseillaise, c'est le chant révolutionnaire, bien sûr, par excellence. Elle est donc reprise par des révolutionnaires sur tous les continents.
Oui, c'est un chant qu'on trouve en Italie presque au même temps. Il y a un hymne vénitien qui est publié en juin 1797 et qui s'inspire directement de la Marseillaise.
De la mélodie et puis...
Là aussi, il est là pour fêter la chute de la République, enfin, des doges de Venise. Donc c'est important. Et qui précipite la chute des doges? Un certain général Bonaparte. Donc c'est tout à fait là... l'hommage à ce qui est encore à l'époque un général révolutionnaire.
Il y a aussi la révolution bolchevique qui s'inspire
c'est plus
de
important
la Marseillaise.
Pour nous, parce que d'abord, cette chanson a été longtemps interdite au début du siècle. Ah, je parle 1900. Elle a été interdite et tous ceux qui la chantaient en Russie étaient arrêtés par la police. Parce que bien évidemment, on était encore sous le régime tsariste. Et elle a eu un succès fou après la révolution d'octobre. Il faut se souvenir qu'en avril 17, lorsque Lénine en exil retourne en Russie, il est accueilli après au Pétrograd, pardon, au son de la Marseillaise.
Ça veut dire que c'est pas l'international.
Ça aurait très bien pu aussi, pardon, être l'hymne soviétique. Seulement, il se trouvait qu'il était déjà cette chanson française. Donc, les socialistes et plus tard les communistes se sont dit que ça ne pouvait pas être l'hymne de deux pays. Il était trop identifié à la France. Mais il avait un succès fou de l'autre côté de l'Est.
Et c'est pour ça que la Marseillaise a été remplacée par l'International, en quelque sorte,
oui,
c'est ça ?
Oui, et puis l'auteur de l'International est français, je parle du texte aussi, ce qui a beaucoup contribué à ça. Donc voilà encore une chanson qui aurait très bien pu, enfin qui s'est très bien exportée. Il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud où la Marseillaise est entonnée spontanément, dans les moments, je dirais, de libération. Et Dieu sait que les pays d'Amérique du Sud ont beaucoup vécu de tragédies et de dictatures militaires. Et c'est toujours un honneur pour nous, Français, d'entendre la Marseillaise chanter lorsqu'une dictature tombe à 10 000, 15 000 kilomètres de chez nous. C'est dire le succès de notre hymne national.
La Marseillaise, certains disent qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi. Moi, j'aimais bien cette version signée Gainsbourg.
Allons en la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, la tyrannie, l'étendard sanglant des deuils.
Aux armes, etc. Ça sent 1979, la version reggae, fallait oser. Et évidemment, ça a fait réagir, Pierre Baron.
D'abord, ça a fait un carton. Ouais. Parce que vous aimiez, mais croyez-moi, vous n'étiez pas le seul. Ça a relancé beaucoup la carrière de Gainsbourg, à un moment donné où ça n'allait pas très très bien. Et tout de même, en quelques mois, il en a vendu 300 000 l'album. Donc ça a été déjà un énorme succès, évidemment. Ça pouvait pas plaire à tout le monde, ça pouvait pas plaire notamment aux militaires. Il a eu beaucoup, beaucoup de soucis avec les parachutistes, pour ne citer qu'eux, qu'il a reçu pas mal de menaces de mort. Il était à deux doigts de se faire casser la figure, pour dire les choses clairement. Il y a eu une scène assez célèbre, on peut le dire, un vrai courage de Gainsbourg, parce qu'il s'est retrouvé face à face avec ses paras. Et
c'était à Strasbourg.
C'était à Strasbourg,
crois.
Vous vous souvenez de la scène? Il s'est mis à chanter à cappella les premiers couplets. Évidemment, pour les parachutistes. Les parachutistes se sont mis au garde à vous. Donc il a chanté sans accompagnement. Et lorsqu'il a fini, il leur a fait un bras d'honneur. Il a tourné les talons, il est parti.
Et juste avant de commencer à chanter, voilà ce qu'il a dit, Gainsbourg.
Je suis un insoumis qui redonnait à la Marseillaise son sens initial. et je vous demanderai de la chanter avec moi. Allons, enfants de la...
Et Gainsbourg qui va marquer son attachement aussi à la Marseillaise en achetant, c'est ça, le manuscrit de la Marseillaise ?
Oui, dans une salle des ventes, Sidonie à Versailles, en 1981, je pense. C'est 135 000 francs de l'époque, ça doit faire un peu plus de 20 000 euros, ça, 20 500 euros, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'était important pour lui, l'extrait qu'on vient d'entendre, parce qu'il ne faut pas oublier que Gainsbourg avait été très, très violemment attaqué, pas seulement par les militaires. Il avait été attaqué par des ultra-conservateurs. Certains même avaient été très loin. On était à deux doigts de l'antisémitisme. Mmh. Gainsbourg avait répondu sur ce terrain-là en disant qu'il laissait à quelqu'un qui ne mérite pas que je le cite, sa Légion d'honneur, mais qu'il lui portait une autre croix en juin 42, qui était une étoile jaune et qu'il n'avait pas de leçon à recevoir sur son patriotisme.
Ouais, et puis des reprises de la Marseillaise, il y en a eu tout au long de l'histoire.
Pardon Sidonie, là-dessus, il y a Johann Sfar, le dessinateur et réalisateur, qui a signé un très beau film, Gainsbourg, vie héroïque, et il dit... c'est le portrait d'un juif russe qui était amoureux de la France. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête pour raconter l'histoire de cette Marseillaise version Gainsbourg. C'est d'abord quelqu'un qui aimait la France.
Oui, et comme vous le dites très justement, parce qu'il est insoumis, parce que c'est un rebelle, il est beaucoup plus proche de l'esprit de la Marseillaise que le format, la perpétuité. Donc il l'a probablement fait renaître en 1979 pour des tas de jeunes, cette Marseillaise. Et ça, chapeau, Monsieur Gainsbourg, quoi.
Alors, beaucoup d'autres grands compositeurs ont été inspirés par la Marseillaise. Par exemple, Tchaïkovski. Cette ouverture 1812, opus 49, c'est son nom. Tchaïkovski l'a composée donc en 1880. Qu'est-ce qu'elle célèbre, cette
1812.
Ouverture
1812, pardon Sidonie. 1812, c'est la victoire des Russes sur les armées napoléoniennes. Mmh. Alors, c'est très difficile parce que l'extrait est court, ce qui n'est pas un reproche. Mais se mêlent les airs de la Marseillaise. C'est très malin de la part de Tchaïkovski parce qu'en opposition... Il y a des thèmes mélodiques de chants patriotiques russes.
Comme des
donc
réponses.
On a vraiment l'opposition musicale entre les deux. Voilà.
C'est un mélange, en fait.
Ouais, c'est un mélange. Mmh. Mais avant, c'est vrai que Tchaïkovski, c'était très patriotique pour lui. Avant ça, on a quand même eu un certain Mozart qui a rendu un hommage fabuleux d'un point de vue musical à la mélodie.
Je vous interromps. Bruno, qui nous appelle du Loiret, posait cette question. N'y aurait-il pas des origines de la Marseillaise dans un morceau de Mozart ?
Et il a parfaitement raison. Dans
Bravo,
le concerto
Bruno.
Pour piano et orchestre numéro 25 de Mozart, on trouve les 12 premières notes de l'hymne qui sont jouées au piano. Pour les mélomanes, si c'est le cas de Bruno, par la main gauche à la fin du premier mouvement. De mémoire, moi qui le suis, mélomane, qui doit être Allegro Maestroso, je crois.
Ah, chapeau. Il y a eu d'autres grands compositeurs.
Oui, Schumann, 1839, dans le premier mouvement du Carnaval de Vienne. Et alors là aussi, c'est un acte politique de la part de Schumann, puisque c'était un défi à Metternich. Metternich avait interdit la Marseillaise à Vienne. Et donc Schumann, pour le défier, l'a introduite de toute façon. Il l'évoquera aussi dans l'ouverture d'un opéra peu connu de Schumann qui s'appelle Hermann et Dorothée en 1851. Et puis, un immense virtuose du piano que tous les joueurs de piano craignent, ils redoutent, y compris quand ils font 30 ans de piano, Franz Liszt, qui en 1872...
Ce serait pas un peu du vécu ça, Monsieur Pierre Baron ?
C'est une horreur, a composé une fantaisie pour piano sur l'air de la Marseillaise. Mais alors, croyez-moi, oui, absolument.
Ouais.
Ça prouve que même la Hongrie a été aussi fascinée d'une certaine manière, Chopin, à sa manière, qui était polonais, lui, a lui aussi été fasciné par ses airs de révolution. Voilà.
Et puis il y a quand même une équipe japonaise aussi qui entonne la Marseillaise. C'est à quelle occasion, ça, Pierre Baron ?
On le doit à l'entraîneur actuel de football d'Arsenal, Arsène Wenger.
Ah oui ?
Parce qu'Arsène Wenger avait entraîné une équipe qui s'appelait les Nagoya Grampus. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais. Wenger leur a fait gagner il y a quelques années, ça fait quand même longtemps que Wenger entraîne Arsenal, il leur a fait gagner la Coupe du Japon. Et donc, les supporters japonais, encore aujourd'hui, pour rendre hommage à cet entraîneur français, chantent toujours la Marseillaise.
C'est génial. Et il y a aussi, à Manchester United, il y a un chant qui reprend, je crois, la mélodie de la Marseillaise.
Oui.
C'est en l'honneur de qui ?
Ah bah c'est Cantona.
Bah oui,
c'est Cantona. Et je crois que les supporters, ils font O-A... Cantona,
oui, voilà, c'est
sur l'air de la Marseillaise.
Ouais.
Et puisqu'on est en Angleterre, il y a quand même un air qu'on n'a pas cité, quand même des gens qu'on n'a pas cités, c'est éminemment anglais. En 67, dans la chanson « All You Need Is Love » des Beatles, et l'intro, c'est la Marseillaise.
Ça, c'est de la transition, parce qu'on va l'écouter tout de suite, in extenso. Merci beaucoup, Pierre Baron, c'était passionnant, comme à chaque fois que vous venez dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.